RCF.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCF pour la chronique Europe de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. Nous nous retrouvons pour la dernière chronique de la saison avant la période estivale. Et pour ce faire, quoi de mieux que de continuer de parler voyage? La Maison de l'Europe a organisé un séjour d'études à Bruxelles, en Belgique, pour les adhérents de l'association du 23 au 26 juin dernier. Le but était de leur faire découvrir la capitale européenne d'un point de vue culturel, mais aussi européen, et également de visiter les institutions européennes, et plus particulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, mais aussi le Conseil européen. Et pour vous raconter ce périple et vous en faire profiter, Jean-Pierre Foultier, administrateur de la Maison de l'Europe, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jean-Pierre, merci d'être avec nous.
Oui, bonjour Marie-Lou, bonjour à nos auditeurs.
Alors pour commencer, pourriez-vous nous présenter Bruxelles, capitale belge, mais aussi Bruxelles est également la capitale européenne.
Oui, alors merci de me permettre d'évoquer avec vous ce séjour d'études de la Maison de l'Europe à Bruxelles. À Bruxelles principalement, même si, en dehors de la visite des institutions européennes dont nous reparlerons, ce voyage avait aussi un but, disons, plus touristique, avec en particulier une journée passée dans la belle ville de Bruges, en plein cœur de cette Flandre historique qui a apporté beaucoup à la culture européenne, dans le domaine de la peinture notamment. Et puis Bruges, c'est aussi cette Venise du Nord, avec ses canaux et ses maisons typiques et colorées. Bruxelles non plus, d'ailleurs, n'est pas dépourvue d'attrait, ne serait-ce que par sa grande place, très animée, sur laquelle nous avons eu le temps de flâner, mais aussi par les évocations permanentes tout au long des rues de la bande dessinée belge, ou encore par le souvenir que nous avons gardé des chansons de Jacques Brel. Bruxelles, et je reviens enfin à votre question, Marie-Lou, c'est la capitale de la Belgique, un pays de 10 millions d'habitants, bien proche du nôtre, mais dont la structure politique et administrative peut néanmoins nous désorienter. La Belgique est en effet un État fédéral avec trois régions disposant chacune d'une réelle autonomie. La Wallonie, la Flandre et la région Bruxelles-Capitale, celle-ci présentant tout de même la particularité d'être officiellement à la fois néerlandophone et francophone, même si plus de 80% de la population de la ville appartient à cette dernière catégorie, et ce, en plein cœur du territoire flamand. Mais Bruxelles, c'est, vous l'avez dit justement, là, il faudrait plutôt dire une capitale européenne, du fait qu'elle est le siège de plusieurs des principales institutions de l'Union européenne et qu'on en fait couramment le lieu de pouvoir de l'Union européenne. Bruxelles a décidé, etc. Mais le Parlement a aussi son siège à Strasbourg, la Cour de justice de l'Union européenne est à Luxembourg et la Banque centrale européenne à Francfort. Et il y en a encore quelques autres.
Mais alors pourquoi Bruxelles a été choisie ?
Alors, la décision a été prise, on peut dire, un peu laborieusement au cours des années qui ont suivi la création de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier d'abord, puis de la Communauté économique européenne avec le traité de Rome de 1957. Je vais essayer d'aller au plus simple. Dans ces années 50, la France, et Jean Monnet en particulier, en tenait pour Paris, l'Allemagne pour Strasbourg et l'Italie pour Milan. Or, les trois pays du Benelux, les plus petits, prenant argument que la Belgique allait assumer la première présidence tournante, ont suggéré Bruxelles. Or, la France a tenu à garder Strasbourg comme siège officiel du Parlement communautaire, et Bruxelles s'est peu à peu imposée pour accueillir les autres institutions majeures, la Commission européenne bien sûr, le Conseil et, pour partie seulement, on va en reparler, le Parlement dans le bâtiment duquel se tiennent les réunions de travail et quelques sessions plénières supplémentaires, les sessions plénières mensuelles ordinaires se déroulant à Strasbourg. outre les aléas historiques, c'est aussi la situation géographique de Bruxelles qui a joué, hein, au cœur d'une Europe du Nord dynamique, bien desservie. Et ajoutons que la Belgique étant un petit pays, les grands qu'étaient la France et l'Allemagne à l'époque, dans cette Europe à 6 au début, hein, ne la voyaient pas comme une concurrente. Alors, une Belgique qui a été aussi, il faut le dire, une préfiguration de l'intégration européenne avec, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la création du Benelux, Belgique, Néerlande, Luxembourg.
Et nous avons eu le plaisir aussi de visiter deux des bâtiments qui hébergent ces institutions. Donc le bâtiment Paul-Henri Spaak, où siège le Parlement européen, et le bâtiment Europa, qui héberge le Conseil de l'Union européenne et le Conseil européen. Mais quels sont leurs rôles respectifs à chacun ?
Alors, ces immeubles que vous avez évoqués, donc, ont une architecture très contemporaine et ils sont vraiment caractéristiques de ce quartier européen de Bruxelles. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par le Parlement et ce bâtiment Paul-Henri Spaak, du nom d'un homme politique belge important, considéré comme un des pères de l'Europe. On donne aussi à ce bâtiment, du fait de sa forme ovale, le sobriquet, pas toujours sympathique, de caprice des dieux. Si le siège officiel du Parlement européen est à Strasbourg, où les députés siègent une semaine par mois, c'est à Bruxelles qu'ils passent effectivement l'essentiel de leur vie de parlementaire, car c'est là que s'effectue le travail en commission. À ce propos d'ailleurs, nous avons eu la chance de rencontrer une eurodéputée, Marie-Pierre Védren, qui a pu nous consacrer un moment d'entretien. Alors, le Parlement européen est en effet ce que l'on appelle un co-législateur de l'Union européenne avec le Conseil de l'Union européenne, dont je parlerai aussi. Les 720 eurodéputés qui sont élus au suffrage universel direct par l'ensemble des citoyens européens ont pour tâche, comme dans les parlements nationaux, d'élaborer des textes réglementaires, des lois européennes en quelque sorte, qui sont ensuite soumises à l'approbation du Conseil. Ce Conseil, c'est le nom que l'on en raccourci que l'on donne au Conseil de l'Union européenne, c'est l'autre voie démocratique des Européens puisqu'il est le représentant des États membres de l'Union européenne et des gouvernements qu'ils ont élus. C'est ainsi que dans cet ensemble de bâtiments bruxellois dans lequel nous avons été reçus par une fonctionnaire européenne, se réunissent régulièrement les ministres des 27 États sur des thématiques particulières, les ministres de l'agriculture pour parler de la PAC, par exemple, de la santé pour parler des vaccins, etc. Ils doivent se prononcer sur les textes législatifs qui ont été discutés préalablement au Parlement. Et rappelons aussi que ce sont les 27 États membres qui, à tour de rôle, assurent la présidence dite tournante de ce Conseil, du Conseil de l'Union européenne, et c'est le Danemark qui en est chargé à l'heure actuelle, et ce, jusqu'à la fin de cette année 2025.
Et ce bâtiment Europa héberge aussi le Conseil européen.
Tout à fait. Et il est peut-être celui que l'on connaît le plus, puisque c'est lui que l'on voit à la télévision, hein, lors des sommets européens, une enfilade de drapeaux devant cette structure curieuse en forme d'ampoule, ou moi j'aime bien la qualifier de montgolfière. Et le jour de notre visite, le site était en préparation du sommet qui devait avoir lieu le lendemain. Alors ce bâtiment accueille en effet le Conseil européen, présidé aussi, il faut le dire, depuis l'an dernier par le Portugais António Costa. Donc le Conseil européen, c'est l'organe exécutif suprême de l'Union européenne qui réunit régulièrement dans ce lieu les 27 chefs d'État, comme le président français par exemple, ou les chefs de gouvernement, comme c'est le cas dans la très grande majorité des États membres. Ce sont ces sommets qui fixent les lignes directrices de la politique européenne que la Commission, elle, est ensuite chargée de mettre en œuvre. Alors, une commission, même si nous ne l'avons pas visitée, hein, mais je peux quand même en parler, dont le siège est dans l'immeuble du Berlaymont, juste en face du bâtiment Europa. Et alors, cette commission, composée de 27 commissaires, sous la présidence d'Ursula von der Leyen, et seule la commission, garante de l'intérêt général européen, possède le droit d'initiative législative, c'est-à-dire de proposer au Parlement et au Conseil des textes de loi. Et il est vrai que l'architecture institutionnelle, cette fois, de l'Union européenne est pour le moins assez complexe.
Et c'est peut-être pour cela que la visite du Parlamentarium, tout proche, a permis peut-être de nous éclairer un petit peu.
Oui, c'est un espace d'information et de communication sur les activités du Parlement européen spécifiquement, mais avec une vision plus large sur la construction européenne, sur ses valeurs. Le choix a été fait délibérément de la dynamique et de l'interactivité, si bien que les visiteurs jeunes, ou même les moins jeunes aussi, s'y sont beaucoup donnés, peuvent jouer tout en découvrant notamment le processus d'élaboration de la législation européenne. Un passage agréable et utile pour aborder mieux cette institution.
Et rappelons aussi que la version française du Parlamentarium existe à Paris. Il s'agit d'Europa Experience, situé au 28 Place de la Madeleine. Mmh. Et c'est également un espace interactif, comme vous l'avez mentionné Jean-Pierre, avec une entrée gratuite qui s'étend sur une superficie de 1500 m² et 3 étages. Et comme à Bruxelles, il dispose d'un parcours multimédia, d'une installation en réalité virtuelle et d'un cinéma à 360, donc avec le même objectif de découvrir de manière dynamique les institutions européennes et plus particulièrement le Parlement européen. Et les visites sont libres, notamment pour les particuliers, mais il est aussi possible de visiter en groupe de 16 à 32 avec la possibilité de faire un jeu de rôle avec une mini-simulation du Parlement européen où on peut endosser le rôle de député européen. Et si vous êtes intéressé et où vous avez besoin de plus d'informations à ce sujet, vous n'hésitez pas à contacter la Maison de l'Europe. Mais revenons au séjour à Bruxelles. Et ce qui a été agréable aussi, il me semble, c'est la visite de l'Atomium.
Oui, alors là, nous avons quitté le quartier et l'univers européen, pour découvrir alors ce monument, l'Atomium de Bruxelles, qui a été construit pour l'exposition universelle de 1958 et qui est devenu vraiment le symbole de la ville, un peu une sorte de tour Eiffel bruxelloise en quelque sorte. Et comme sa cousine parisienne, ce sont les techniques architecturales et industrielles qui, à l'époque, donc en 1958, étaient à l'honneur. La structure est effectivement surprenante, un agencement de boules géantes reliées par des tubes comme le sont les atomes. À l'intérieur, une visite qui allie la nostalgie des années 50, moi je m'y suis bien retrouvé, hein, et des trouvailles technologiques et lumineuses, beaucoup plus contemporaine, celle-là.
Et Jean-Pierre, un dernier petit mot pour résumer ce séjour.
Alors, ce séjour agréable et instructif, certainement. Alors, pour les europhiles que nous sommes à la Maison de l'Europe en Limousin, ces voyages, alors moi j'ai connu quelques années auparavant celui à Strasbourg et celui à Berlin, ces voyages sont toujours ces séjours d'études, hein, comme on les appelle, pas seulement des voyages de divertissement, sont toujours des moments forts et marquants d'échange et de convivialité, et ils ne peuvent que renforcer par la pratique et la déambulation dans ces lieux vraiment du pouvoir, ces lieux européens, de renforcer notre familiarité avec les institutions et notre détermination à porter le projet européen.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre pour le temps que vous nous avez accordé. Et je remercie aussi les auditeurs de nous avoir écoutés. Et quant à moi, je vous souhaite un excellent été et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique.